Au commencement, il n'y avait que le néant. Puis, le Big Bang créa l'univers. Mais après plusieurs milliards d'années, de mystérieuses ondes bouleversent l'ordre. Au fin fond de la galaxie, oui, juste un peu à droite, là, le chaos reprend sa source dans Big Bang Station, le mercredi, sur IDFM Radio. Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de Big Bang
Station.
Débranchez votre moteur, allumez la planète, c'est le slogan de cette émission. Nous sommes sur IDFM Radio tous les mercredis jusqu'à 22h sur les 98 FM en Ile-de-France et en DAB+, et toujours sur Facebook, Instagram, X, Internet, Android, encore Spotify, Google Podcast, Radio Public, au choix sur notre page, notre compte, notre site, notre appli, IDFM Radio et Big Bang Station. Big Bang Station, c'est depuis 28 ans un thème d'actualité sur lequel les chroniqueurs histoire, high-tech, juridique, bien-être, musique, télé, culture pop colle le plus possible. Aujourd'hui, nous parlerons de journées sans voiture. Petit Manu nous parlera de l'origine de ces journées. Bonjour.
Eh, bonjour Didier, ça fait vachement longtemps que je t'ai pas vu, on s'est pas revu. Comment tu vas?
Les deux précédentes émissions étaient enregistrées avant les vacances.
Oh, c'était d'abord enregistré en avance. En tout cas, ça fait grand plaisir de te voir. Et évidemment, une journée sans voiture, ça veut dire qu'on marche. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Eh bien, vous saurez tout.
Pour ou contre la voiture, Émilie est allée interroger des passants pour connaître leur avis. Effectivement, le micro-trottoir est de retour dans Big Bang Station. Mais peut-on avoir une amende dans cette journée sans voiture? Marie-Christine répondra à notre question. Bonjour.
Bonjour. Ben oui, vous allez voir. Oui, on peut avoir des amendes.
On se penchera aussi sur les autres bienfaits de ne pas prendre sa voiture avec Ponari.
Salut Didier, salut à tous. Une journée sans voiture, ce n'est pas seulement une démarche écologique, c'est aussi une véritable expérience de bien-être, une occasion de ralentir, de respirer et de redécouvrir notre quotidien autrement. Je vous propose qu'on explore ensemble les bienfaits de cette parenthèse hors du temps.
Et que se passerait-il s'il n'y avait plus du tout de voiture? Difficile à dire? Bah pas vraiment, car on a vécu cette situation pendant les confinements. Je vous proposerai un petit rappel quand les animaux reprennent le pouvoir. Et pour notre page culture, Kevin nous fera jouer à son quiz sur des chansons qui militent pour une vie sans voiture.
Tout à fait, salut Didier, salut à toutes et à tous. Eh bien oui, c'est arrivé aussi aux artistes de laisser la voiture de côté, et ils l'ont même expliqué à travers leur chanson que nous allons écouter tout à l'heure.
Enfin, Eric nous offrira une vision d'une vie sans voiture à travers la pop culture.
Salut Didier et salut à tous. J'allais dire en voiture Simone, mais Simone elle va rester dans sa zone piétonne et nous suivre dans
ça
ma...
aussi. Hein?
Et puis ça fait du bien. Et nous suivre dans ma pop culture avec le jeu vidéo City Skylines 1 et 2 où vous verrez comment construire une ville sans voiture.
Et enfin les amis, faut pas oublier qui c'est qui gère, qui contrôle tout. Notre cher Amidi, on l'applaudit.
Oh, ouais,
ouais. Oh, c'est Didier.
Tu me cites, c'est déjà bien.
Ah, bon, je te mets en valeur sur un piédestal.
Aujourd'hui, je suis une chronique.
Évidemment, oh là là,
il sait
tout faire. Et au moins, il est éclectique.
Électrique, j'ai dit.
Non, électrique,
quand je touche. Regarde, quand je te touche.
Ouh, j'ai l'électricité. Les gars, j'ai pas de coup, heureusement.
Chaque jour, plus d'un milliard de voitures circulent dans le monde. En France, il y a 39 millions de véhicules sur les routes et près de 48 000 décès prématurés qui sont liés à la pollution atmosphérique, dont une large part provient des émissions des voitures. Autre conséquence du trafic routier, le bruit. Plus de 3 millions de personnes souffrent de nuisances sonores chroniques en milieu urbain. Face à ces constats, l'idée des journées sans voiture est née, comme va nous l'expliquer Petit Manu.
Avec grand plaisir.
Chaque semaine, il crypte l'actualité.
Un président américain, monsieur Barack Obama. Donald Trump. Il arrive.
Bilton.
David Bouillet. Joe Cocker. Justine Timberlake. Lady Dada. Sakina. Oui, Kendrick.
Vous trouvez Petit Manu et son grand dossier journalistique.
J'ai mangé tous les travaux. Non.
Tous les quoi?
Alors, dans la journée sans voiture, il faut savoir, et ce qui résume, dans les années 1950 à 1960, avec l'expansion, comme tu as très bien dit Didier, du trafic automobile dans les grandes villes européennes et américaines, et dont des voix s'élèvent contre les nuisances liées à la voiture. Là, comme tu as très bien dit, la pollution, les bruits, les accidents. La première journée sans voiture a été à Reims, où Jeanne d'Arc s'est fait couronner.
Voilà, tu dis Reims, toi?
À Reims? Bah, pourquoi À Reims. Jeanne d'Arc s'est fait couronner, il faut le savoir, un peu de culture. Voilà.
On dit Reims.
Reims, la ville de Reims. Voilà. En 1989, très vite, d'autres villes européennes suivent, comme le mouvement notamment à Bruxelles, à Bruxelles et à Paris. Mais le véritable essor international se produit dans les années 1990, grâce à la journée mondiale sans voiture, promue par la Commission européenne. Eh bien, il faut le savoir. Le 22 septembre devient un symbole, une date où toutes les grandes villes participent et organisent des événements, des démonstrations de vélos et des transports en commun. Faut savoir. Et puis en même temps, c'est vrai qu'il y a une journée sans voiture. Et ce qui est formidable, une fois j'étais curieux, je ne comprenais pas, j'étais en famille, mais j'ai dit, mais pourquoi il n'y a pas de voiture? On m'a dit, il n'y a pas de voiture. Mais à partir de 2h.
Parce que tu étais en pleine mer.
Ah bah non, pas du tout. C'était à Châtelet.
T'étais à Châtelet.
À Châtelet, je me demandais, j'étais en famille, il faisait beau, une balade. Mais à partir de 14h, bah, les voitures ont repris et on m'a simplement répondu. Mais effectivement, avant 14h, il n'y a aucune voiture. Et...
Il y a des horaires.
Voilà,
y a des Marie-Christine horaires. Va te détailler.
Exactement,
tout ça.
Faut respecter. Et... Mais c'est vraiment faut bien savoir. Voilà, mon cher Didier, tout ce qu'on doit savoir, où je vous ai fait un petit résumé.
Merci, petit Manu.
Avec plaisir.
Les Français restent très attachés à leur voiture. 80% se déclarent attachés à leur voiture. 84% ne souhaitent pas s'en séparer. Et plus de 90% ont accès à une voiture dans leur foyer. La journée sans voiture va-t-elle être très difficile à suivre pour les Français? Émilie est allée interroger des passants pour connaître leur avis.
Nous sommes aujourd'hui à Élou, petite commune rurale de l'Orne, située à environ 6 km au sud-ouest d'Alençon, en plein parc naturel régional Normandie-Maine. Que pensent les habitants de cette commune de la journée sans voiture?
Bah, c'est très bien ça, il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de... y a moins de transport en voiture et il faut mieux privilégier le vélo ou la marche.
Beaucoup n'ont pas vraiment le choix parce que l'offre de transport n'est pas toujours assez développée ou adaptée aux besoins.
Vous, qu'est-ce que vous en pensez de la journée sans voiture?
J'en pense, ça peut être bien, à condition de ne pas avoir besoin de transport pour aller d'un point à un autre. Mettons, vous avez rendez-vous chez votre médecin ce jour-là, et ben, c'est pas évident. Voilà.
Il y a les transports en commun pour ça?
Les transports en commun, justement, ils sont pas, il n'y en a pas tellement. Il faut attendre 50 minutes avant d'avoir un transport.
Par chez nous, il n'y a pas beaucoup de transports en commun. Donc du coup, si on n'a pas de voiture, on ne peut pas se bouger.
Enfin,
c'est mon point de vue.
D'accord, c'est beau à Paris, c'est vrai que nous, c'est un peu plus compliqué.
Ah oui, parce que si on n'a pas de voiture, on ne peut pas aller au travail, on ne peut pas aller au pain, on ne peut pas aller faire des courses. Donc concrètement, bah, sur le principe, c'est bien parce que on ne pollue pas, mais concrètement, on ne peut rien faire
on n'a pas.
Ouais. C'est, concrètement, moi, je travaille à 20 km de chez moi. Et il n'y a pas de bus, il n'y a pas de tram. Donc concrètement, je suis obligé d'avoir une voiture.
À Élou, nombreux sont ceux pour qui la voiture reste incontournable. En Normandie, seulement 6% des déplacements domicile-travail se font en transport en commun, contre 84% en voiture.
Merci Émilie. Une étude menée par l'IFOP révèle que 2/3 des habitants des communes de plus de 100 000 habitants se prononcent en faveur des mesures prises pour restreindre la circulation automobile. Au moins 1 Français sur 2 soutient l'idée d'une journée sans voiture. Cependant, une seule journée par an semble insuffisante pour 34% des personnes interrogées. À Paris, intramuros, seulement environ 10 à 15% des déplacements se font en voiture, contre 30 à 40% en petite couronne et plus de 60% en grande couronne. À Paris, notamment, en matière de réglementation, les autorités locales mettent en place des amendes pour assurer le respect des restrictions de circulation, comme va nous l'expliquer Marie-Christine.
Loi, réglementation, Marie-Christine vous dit tout.
Et puis, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut pas faire, oh là là, entre nos connaissances et la réalité.
Vous avez vous demandé quels codes garantissent la qualité et la sécurité de ces délits incontournables? Eh bien, accrochez-vous, car nous allons explorer ensemble les règles, la réglementation.
On écoute toujours Marie-Christine avec la plus grande attention. Oh là là, l'expérience de la vie, la maturité.
Alors le dimanche 21 septembre 2025, et non pas le 22 septembre, c'est pour cette année, de 11h à 18h, Paris se transforme en une visite zone piétonne à l'occasion de la traditionnelle journée sans voiture, avec un encadrement strict des règles de circulation, à l'exception du boulevard périphérique. Pendant cette période, l'accès des véhicules motorisés, y compris électriques, sera sévèrement limité dans toute la ville. Les voitures particulières, scooters, motos, seront interdites de circulation, tandis que seuls certains véhicules essentiels pourront rouler. Transports d'urgence, taxis, VTC et bus soumis à des restrictions spécifiques. Les transports d'urgence, ambulances, pompiers, police, véhicules de dépannage en intervention urgente, bénéficieront d'une totale liberté, sans aucune restriction, ni limitation de vitesse, ni contrainte de périmètre. Mais il y a des dérogations pour les professionnels et les particuliers. Alors les professionnels, on trouve qui ? Toujours ceux qui travaillent quand il ne faut pas. Les livreurs, les artisans en intervention urgente, les pompes funèbres, les taxis et les VTC. Pour les taxis, la circulation est autorisée, surtout en cas d'urgence. Dans les autres cas, ils doivent respecter des limitations de vitesse. 20 km dans les zones Paris Respire, c'est-à-dire l'hypercentre, Champs-Élysées, Montmartre, et 30 km dans le reste de la ville. Ils doivent privilégier les parcours les plus courts et veiller à la sécurité des piétons et des cyclistes. Les taxis peuvent également transporter des personnes à mobilité réduite ou des usagers nécessitant un déplacement médical sous réserve de justificatif. Les livraisons et les travailleurs. Il faut qu'ils fournissent une attestation de l'employeur, un bon de livraison, un contrat d'intervention rapide. Les travailleurs en horaire décalé, début ou fin d'activité, enfin entre 6h et 21h, peuvent aussi bénéficier de dérogations. Les services publics sont sans restriction. Le personnel médical, personnes en situation de handicap, les rendez-vous médicaux urgents, les transports de malades avec carte de mobilité inclusion et une ordonnance de certificat médical. Et bien sûr, les femmes sur le point d'accoucher ont le droit de circuler. Ou bien les personnes très âgées peuvent se rendre en structure médicale, en voiture ou en taxi. Pour les déménagements, les professionnels ou particuliers justifiant d'un contrat ou d'une attestation sur l'honneur. La presse, les véhicules de presse sont accrédités et munis d'une carte de presse ou une lettre de mission. Alors pour les résidents, il faut aussi donner la carte d'identité, le justificatif de domicile et la carte grise. Pour ceux qui prennent l'aéroport, entre le domicile et l'aéroport, il faut une dérogation qui peut être demandée sur justificatif, selon des règles spécifiques, le billet d'avion et l'adresse. Alors, en cas de nécessité, on peut aussi fournir, en cas de livraison de matériel particulier, ne pouvant être remplacé par un véhicule plus propre, c'est-à-dire trottinette ou autre, une demande de dérogation motivée qui peut être déposée pour des raisons techniques ou sociales. Alors, quand s'effectue cette demande de dérogation ? Les demandes doivent être adressées à la préfecture de police de Paris ou à la mairie de chaque arrondissement concerné, au moins 15 jours avant l'événement, selon les modalités définies pour chaque édition. Même avec une dérogation, la circulation peut être limitée à certaines zones ou plages horaires et les vitesses maximales autorisées sont réduites. Alors, les sanctions ? En cas de non-respect des règles, des dispositifs policiers renforcés sont déployés avec des amendes de 135 euros pour les contravenants. Au-delà de Paris, d'autres villes en France et en Europe organisent également des journées sans voiture et appliquent des amendes en cas d'infraction. Enfin, au-delà d'une contrainte, sachez que la journée sans voiture s'inscrit dans un projet global de transition vers une ville durable où les règles deviennent un levier essentiel pour transformer les comportements et repenser la mobilité urbaine.
Eh ben merci, voilà. Marie-Christine. Le trafic routier cause plus de 3000 morts par an en accident, tandis que la pollution de l'air liée au trafic provoque environ 40 000 décès et 10 000 maladies cardiovasculaires chaque année. Pendant le confinement de 2020, les niveaux de pollution ont chuté de 30 à 60% dans certaines grandes villes, entraînant une baisse immédiate des hospitalisations pour maladies respiratoires. Quel impact des journées sans voiture sur la pollution atmosphérique ? Quelles solutions pour circuler sans voiture ? Pour répondre à nos questions, nous avons Tony Renucci, directeur général de l'association Respire au téléphone. Bonjour.
Bonjour.
Quel impact a le trafic routier sur la santé ?
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le trafic routier émet plusieurs polluants atmosphériques. Il y en a un qui est principalement émis par le trafic routier, qui s'appelle le dioxyde d'azote, le NO2, qui est très irritant pour les voies respiratoires et qui donc peut causer de l'asthme, des maladies respiratoires. Et puis on parle aussi des particules fines, qui sont aussi émises par le trafic routier. Ce n'est pas la première source d'émission, mais le trafic routier y contribue. Et ces particules sont aussi très dangereuses pour la santé parce qu'elles pénètrent dans l'organisme et s'attaquent notamment à nos poumons, à notre cœur, à notre cerveau. Et il faut quand même savoir que si on respectait les recommandations de l'Organisation mondiale pour la santé en termes d'exposition sur ces polluants, on pourrait éviter en Ile-de-France, par exemple, jusqu'à 7900 décès par an. Donc il y a un impact vital, mais aussi en termes de maladie du trafic routier.
Et c'est quoi les symptômes, à part la toux, si on a été intoxiqué par la pollution ?
Mais déjà, la première chose, c'est que parfois, on n'a pas de symptômes. C'est-à-dire qu'on peut être attaqué ou intoxiqué, comme vous le dites, par la pollution, et en souffrir, et en s'en rendre compte beaucoup plus tard, ou avoir une maladie ou décéder pour des causes qui seraient liées à la pollution sans forcément le savoir. On verra jamais écrit pollution de l'air, vous savez, en motif de décès. Alors après, il peut y avoir des choses qui sont plus aiguës, et donc la toux en fait partie, mais ça peut être aussi des crises d'asthme, ça peut être aussi le nez qui coule, ça peut être tout ce type de symptômes qu'on peut trouver, notamment quand on ne sent pas bien en hiver, quand on est un peu mal, quand on a du mal à respirer, eh bien, on peut les retrouver dans des moments de crise. Mais je le répète, la pollution, c'est une exposition chronique. Ça ne va pas forcément se matérialiser par un symptôme particulier. On peut en souffrir quotidiennement sans même s'en rendre compte.
Et vous accompagnez les victimes de pollution ?
Oui, on a une assistance juridique avec une avocate qui bénévolement donne des premiers éléments de réponse quand elle est sollicitée. Ça a permis aussi d'accompagner certaines personnes dans des démarches avec aussi des courriers aux administrations. Et puis, il y a eu quelques cas aussi où on s'est plus investi. On a mis en contact des victimes avec des avocats de notre réseau. Je pense notamment à la première condamnation de l'État envers des victimes de la pollution et les premières indemnisations qui ont été décidées par la justice pour les cas de nourrissons qui souffraient beaucoup de la pollution.
Et quel impact ont les journées sans voiture sur la pollution atmosphérique ?
Alors, les journées sans voiture, telles qu'elles sont appliquées par exemple à Paris, où pendant une journée, je crois que c'était de 11h à 18h, les voitures ne pouvaient plus circuler hors de sur les véhicules d'urgence ou certains cas particuliers, eh bien, déjà, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est quand même avant tout pédagogique. On ne pourra pas fonctionner non plus comme ça tous les jours sans voiture. Mais c'est très intéressant parce que sur le dioxyde d'azote, le polluant dont je vous ai parlé, qu'on voit, c'est que pendant la dernière journée sans voiture, celle qui a eu lieu en 2023, dans la capitale, on a eu quand même une baisse des concentrations de ce polluant de l'ordre de 5 à 20% en moins par rapport à un dimanche habituel. Et on voit d'ailleurs que la plus grande baisse, c'était dans le quartier de l'Opéra. Alors, le quartier de l'Opéra, quand il y a des voitures, je peux vous dire qu'il est quand même bien bouché. Donc, ça a un impact qui est intéressant sur la qualité de l'air et y compris sur des axes importants qui sont parfois un peu plus éloignés. Par exemple, on voyait que le long du périphérique, on avait une baisse de 5 à 10 %. Donc, c'est pas seulement restreint dans les zones où la circulation a été limitée.
Et alors, on peut certainement mieux quantifier hein, l'impact de l'absence de la voiture dans des périodes, par exemple, de confinement ?
Ah oui, ah bah là, complètement. Mais ce qu'on a vu, d'ailleurs, c'était une baisse des émissions de mémoire, c'était 89% sur le dioxyde d'azote. Donc, bien sûr, ça a été une période où on a eu des très faibles niveaux d'exposition au dioxyde d'azote. Oui.
Mais quelle solution, alors, pour circuler sans voiture ?
Alors, tout dépend dans quel territoire on vit. Quand on est à Paris, ou en tout cas dans des zones denses, des grandes les alternatives, ce sera la marche, ce sera le vélo, ce sera les transports en commun ou la mobilité partagée, parce qu'on peut aussi rouler, mais dans une démarche plus de covoiturage ou de mobilité partagée, ou de micro-mobilité aussi pour certains, c'est la trottinette. Et pour ceux qui n'ont pas d'autre choix d'utiliser la voiture, eh bien de pouvoir circuler en véhicule faible émission comme les véhicules électriques.
Les voitures électriques, est-ce qu'elles sont la solution alors ?
Bah, c'est une partie de la solution. Parce qu'une voiture électrique, elle n'émet pas de polluants à l'échappement. Et par contre, elle peut encore émettre des polluants hors échappement. Donc, par exemple, les poussières dues au freinage, dues à l'usure des pneus. Mais ça sera quand même réduit par rapport à une voiture thermique. Donc, les voitures électriques font partie de la solution, indéniablement.
Et la voiture, elle reste quand même un symbole de liberté individuelle.
Déjà, je pense qu'il y a plusieurs choses dans le symbole de la voiture. On parle beaucoup du symbole de liberté individuelle. Je pense que c'est le cas, d'ailleurs, pour certaines personnes. Mais aussi, je pense quand même, un élément marketing qui a été créé aussi par des constructeurs. D'ailleurs, vous voyez souvent que c'est comme ça qu'on représente la voiture dans les publicités, notamment à la télévision. Comme voilà, liberté de voyager, etc. Ce n'est pas fou en pratique, mais pendant longtemps aussi la voiture a été un élément de réussite, d'accomplissement social, le fait de pouvoir s'aider dans la société en étant propriétaire d'une voiture. Il ne faut pas aussi oublier que pour beaucoup de monde, la voiture est une dépendance, est une charge financière, c'est une dépendance parce qu'on ne peut pas faire autrement qu'en voiture. Et donc ça peut être aussi une nuisance, y compris personnelle. Maintenant, la question c'est que dans des territoires très denses, il faut développer de l'alternative. Dans les villes, il faut développer de l'alternative pour pouvoir se passer de la voiture. Dans des zones où on ne peut pas faire autrement, et c'est le cas dans les territoires notamment ruraux, l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut amener à aller dans une transition qui aille vers des véhicules à plus faible émission ou à plus long terme des transports en commun quand on arrivera à plus les développer.
Les personnes âgées, elles font comment? Parce que le métro, elles ne peuvent pas le prendre parce que les marches, c'est compliqué. Les bus, c'est plein. Les marchés, c'est un petit peu compliqué. Donc, elles font comment? Parce qu'il va y en avoir de plus en plus. Et je trouve que leur périmètre de marche devient de plus en plus compliqué pour se mobiliser à Paris. Alors, c'est peut-être une question que j'ai parce que je vieillis, mais je trouve qu'elles ont guère possibilité de se déplacer facilement par rapport aux jeunes. Elles ne peuvent pas prendre le vélo, les trottinettes, n'en parlons pas. Et je vois dans les campagnes et tout ça, bon, elles ont encore besoin de leur voiture, elles s'en servent, et à Paris, ça devient l'enfer. Donc comment font-elles?
Je pense qu'il y a plusieurs éléments de réponse à votre question. Déjà, sur des territoires plus ruraux, la dépense pour les voitures, qu'on soit personne âgée ou pas, elle reste la même. Ça, on est d'accord. Dans les villes, et donc notamment dans le cas de Paris, je pense qu'on ne peut pas généraliser le terme personne âgée à tout le monde. Les situations sont différentes. Certaines sont très actives et continuent à prendre le métro, voire parfois à faire du vélo ou à marcher. Pour d'autres, c'est plus compliqué. Mais j'ai le sentiment que votre question vient aussi sur comment est-ce qu'elles peuvent circuler. Parce que vous avez cité les exemples du vélo, des trottinettes qui peuvent être dangereux pour les personnes âgées. Je pense que transition dans une ville dans laquelle on veut la place de la voiture nécessite aussi que pour les piétons, et donc notamment pour les personnes âgées, ça soit plus sécurisant. Et c'est vrai qu'il y a parfois des heurts hein, quand même entre la circulation de certains types de mobilité. On l'a vu avec les trottinettes, on l'a vu aussi parfois avec les vélos et les piétons. Et ça, ce serait aussi sûrement le rôle des municipalités de mieux sécuriser ces espaces-là. Mais est-ce que la réponse serait de dire qu'il faudrait à tout prix la voiture? Peut-être que pour certains, elles n'auront pas le choix, elles ont envie de continuer à utiliser et ça se respecte. Mais il y a aussi tout un débat, on l'a vu, hein, sur la conduite des personnes âgées. Pour certaines, c'est aussi plus compliqué, notamment en raison de la santé. Donc je pense que la question, c'est plutôt comment est-ce qu'on fait en sorte que tous les modes de mobilité soient plus simples, enfin en tout cas ceux qui sont dehors de la voiture, soient plus simples pour les personnes âgées, que ce soit via des navettes, des transports en commun ou autre aménagement qui soit plus sécurisant pour elles, plutôt que de se dire qu'il faudrait à tout prix les cantonner à la voiture, alors que parfois, elles ne sont plus en mesure de conduire.
Merci.
Et il y a aussi d'autres effets, hein, comme le bruit qui est généré par la circulation automobile. Quels effets il a sur les habitants?
Le bruit a des effets sur la santé. Déjà, des effets d'inconfort, ça peut aller jusqu'aux troubles du sommeil, ça peut être des effets négatifs sur le système cardiovasculaire, des troubles cognitifs chez les enfants. Et d'ailleurs, l'Agence européenne pour l'environnement parle même de 12 000 décès par an à cause du bruit. Alors c'est moins que la pollution, d'ailleurs je ne l'ai pas cité au début, mais en France quand même on estime que la pollution tue 40 000 personnes par an. Mais donc il y a des conséquences sanitaires avec le bruit généré par la circulation automobile, de la même façon qu'il y a des conséquences sanitaires avec les polluants émis par la circulation automobile. Et on parlait de la journée Paris sans voiture en 2023, il y a eu aussi une baisse globale du bruit qui a été observée dans les stations de bruit Paris, ça c'est intéressant. On voyait qu'on avait une baisse de 3,3 décibels et ça représentait une diminution de 53% des émissions sonores en moyenne par rapport à un dimanche habituel. Donc c'est quand même considérable, je crois même que c'était la baisse du bruit la plus forte enregistrée depuis la mise en place de l'opération dans la capitale.
Et pourquoi il n'y a pas eu de journée à Paris sans voiture en 2024?
Je pense qu'il n'y a pas eu parce qu'il y avait les JO, tout simplement. C'était juste après les JO, je pense que c'était peut-être pour ça.
Et est-ce qu'il y a une ville européenne ou ailleurs à suivre en matière justement de journée sans voiture?
Il y a d'autres villes. Déjà, il y a une vraie influence, un rayonnement de ce que fait la ville de Paris qu'on retrouve aussi ailleurs dans d'autres villes internationales. C'est le cas notamment à Londres, c'est le cas notamment à Barcelone. La réduction de la place de la voiture en ville est une politique qui est suivie par beaucoup de capitales européennes. Et après, il y a d'autres villes intéressantes, notamment Pontevedra, en Espagne, qui a tout simplement banni la voiture de la ville.
Voilà. D'accord.
De façon permanente. Et c'était la première, il me semble, et peut-être une des seules, en tout cas, à le faire aujourd'hui en Europe. Et c'est une plus petite ville que Paris. Hein.
Et enfin, que les pouvoirs publics français devraient-ils faire donc pour limiter la voiture et les conséquences néfastes?
Déjà au niveau local, les politiques qui sont mises en place à Paris et dans d'autres grandes villes, hein, qu'on retrouve aussi à Lyon, à Lille, Nantes, à Montpellier, c'est la réduction de la place de la voiture en ville. Et donc ça passe par la promotion des alternatives avec la marche, avec le vélo, avec le développement des transports en commun, avec la limitation aussi des SUV en ville, parce que ça aussi est une nouvelle source de nuisance et de pollution. Ça déjà, c'est des choses assez concrètes qu'on peut faire à l'échelle d'une ville. Et après, c'est beaucoup au niveau de l'État, les aides à la transition, notamment les aides économiques, les zones à faible émission pour aussi encourager au renouvellement des véhicules et limiter aussi les trafics routiers dans les grands centres urbains, sont des mesures qui seraient nécessaires pour améliorer la situation.
Bah merci Tony Reducci, directeur général de l'association Respire.
Merci.
Et maintenant, on place à un moment de douceur et de respiration avec la chronique de
Polari.
Oui, de Polari, tout à fait. Non, parce qu'il me regardait.
Ouais, non, t'avais envie de dire Kevin. Hein.
Non, Polari, c'est à toi, t'inquiète. On t'écoute avec
juste
grand
plaisir. Juste, Manu, Polari en français, ça donne quoi?
Non, je dis Polari parce que j'ai eu du mal à prononcer. Je le dis bien.
Je crois que c'est la première fois qu'il
le
dit.
Oh, bah, je sais pas.
Il a travaillé tout l'été, au fait.
Je sais pas ce qui se passe, non.
Ça va au bout de 4 ans.
Voilà, faut laisser le temps au temps. Je préfère rien dire, sachant que j'ai eu du mal à prononcer. On t'écoute avec grande attention et plaisir, Polari.
Aujourd'hui, Polari nous invite à réfléchir à une journée un peu particulière, un temps pour soi, donc. Je parle évidemment de la journée sans voiture, un temps pour soi, pour son corps, mais aussi pour la planète. Quel bienfait peut-on en tirer? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite avec
Polari.
Et retrouver la chronique bien-être.
Bah de Polari, et puis je peux vous dire qu'elle assure, elle nous voit, on est rempli d'émotions, les yeux, on est captés sur elle.
Posez-vous la question, de quoi ai-je besoin aujourd'hui pour être bien avec moi-même?
Et même des fois, on a failli pleurer d'émotion.
La chronique bien-être de Polari.
Sans voiture, un souffle pour soi et pour la planète. Chaque année, de nombreuses villes organisent une journée sans voiture et l'événement est présenté comme une action écologique, comme le disait notre invité. Mais ses bénéfices dépassent largement la question de la pollution. Car une ville sans voiture, le temps d'une journée, c'est aussi une expérience de bien-être, de calme et de reconnexion. Bouger autrement, c'est un bienfait pour le corps. Marcher ou utiliser le vélo à la place de la voiture, c'est redonner au corps un rôle qu'il a parfois oublié. Les muscles s'activent, la respiration se régule, la circulation sanguine s'améliore. Selon l'OMS,
l'Organisation
mondiale de
santé
de la santé.
Tout simplement.
Voilà.
Tout simplement.
Bravo. 30 minutes de marche quotidienne suffisent pour réduire les risques de maladies cardiovasculaires.
Autrement dit, faire un peu de sport et
marcher
suffit. Tout à fait.
Bah, petit Manu, il est en pleine forme parce que souvent on le fait marcher.
Non, mais c'est moi qui...
Mais t'es immobile,
non,
alors ça marche pas.
Non.
Et au sens figuré.
Non, mais ça, non, simplement...
Ah oui, au sens prof qu'il faut marcher.
Ça, je n'en sais rien, mais moi, je prends le temps de marcher. De marcher, ça fait réfléchir pour l'avenir et prendre du recul.
Mais tu marches où?
Ah bah, dans la rue, un endroit à l'autre, pour regarder...
C'est le cas d'un artiste qu'on va écouter tout à l'heure.
Bah, pour regarder, pour les comédiens, exercice du style, c'est un déplacement en bus, mais sinon, on peut partir d'un endroit à l'autre. Reprends, ma chère.
Exactement.
On t'écoute avec grande attention.
Merci, petit Manu. Une journée sans voiture, c'est donc l'occasion d'inscrire le mouvement au cœur de son quotidien. Par conséquent, moins de stress, plus de sérénité. À l'inverse, conduire, c'est souvent synonyme d'embouteillage, de bruit, de tension, voire de brutalité, d'insultes échangées entre le bip et bip, on entend souvent ça en voiture. Donc en choisissant de marcher ou de pédaler, on se libère de ce stress et les déplacements deviennent plus calmes, presque méditatifs pour certaines personnes. Plusieurs études montrent que la marche réduit l'anxiété et favorise la clarté mentale. Une journée sans voiture agit donc ainsi comme une pause pour le mental. Une journée sans voiture, c'est une ville qui respire. Lors des journées sans voiture, nous l'avons évoqué, les chiffres parlent d'eux-mêmes. La pollution sonore et atmosphérique chute immédiatement, les rues deviennent silencieuses, l'air plus léger et les habitants redécouvrent le plaisir d'une ville apaisée. Ce moment révèle à quel point notre environnement influence directement notre qualité de vie. Rappelez-vous à l'époque de la Covid où la nature et les animaux ont repris leur droit.
Bah, je vais d'ailleurs en parler.
Voilà. C'est aussi plus de liens sociaux, moins de voitures, c'est aussi plus de rencontres, les passants se croisent, voire échangent un sourire, se parlent et puis redécouvrent leur quartier. Les terrasses sont plus calmes, les enfants jouent plus librement, les places reprennent leur rôle d'espace partagé. La journée sans voiture transforme la ville en lieu de convivialité. Alors, quels sont les conseils pratiques pour profiter d'une journée sans voiture ? D'abord, préparer son trajet, identifier à l'avance les pistes cyclables, les zones piétonnes ou les parcs qui permettent d'éviter les imprévus. Voyager léger, un sac confortable, une gourde et puis de bonnes chaussures suffisent pour la marche. Prendre le temps, transformer le trajet en balade, observer les détails de la ville, écouter de la musique ou un podcast, celui de Big Bang
Station, ou le mien, source d'inspiration.
Voilà. Voilà, nouvelle activité de Kevin. Hein.
Non, non, ça fait depuis 2023 que je l'ai.
Ah bon, bah alors. On cut. Partager l'expérience, marcher ou pédaler avec un proche rend le moment plus agréable. Et célébrer la journée en fin de parcours, s'offrir un moment de pause, un café, une méditation ou simplement apprécier le calme retrouvé. C'est un rendez-vous à prolonger. La journée sans voiture prouve que d'autres façons de se déplacer sont possibles, agréables et bénéfiques. Au-delà d'un simple événement, elle pourrait devenir une habitude régulière, une journée par semaine ou par mois où l'on choisit de bouger autrement. Car ce qui commence comme un geste pour la planète devient très vite un cadeau pour soi.
Merci, Ponari.
Oh, merci.
On est tout tue. On est tout avec grand plaisir.
Justement, vous êtes pour ou contre le fait de ne pas prendre la voiture ? Est-ce que pour vous, ne pas prendre la voiture, c'est trop contraignant, Eric ?
Ah non, moi ça me dérange pas du tout. Au contraire, je suis pour l'idée. Enfin, je suis contre la pollution, donc contre les voitures, mais en même temps.
Tu conduis ou pas ?
Oui, je conduis.
D'accord.
Mais
petit Manu, toi, tu conduis
pas ?
Ah
non, moi, je conduis pas. Mais c'est vrai.
T'as été interdit d'ailleurs de.
Non, mais je conduis pas. Mais
t'as essayé de passer le permis ?
Oh, moi, je suis pas un exemple pour cela.
Combien
de
fois ?
Un certain nombre.
Oui, un certain nombre de fois. Oui.
Peu importe. Mais si tu dis, c'est vrai qu'on.
Et on a dit même que t'as une conduite trop sportive.
Non, et c'est vrai. On vous disait que j'avais un conduite sportive.
On n'est pas en Formule 1.
C'est vrai. À l'époque, j'ai un mauvais période. Mais c'est vrai qu'on en prend conscience. Tout ce que tu as dit, et comme a dit monsieur Tony, tout à l'heure qu'on a eu, t'as eu au téléphone, ben ça, c'est vrai, ça en prend le goût de vivre, la convivialité, un
donc
peu plus
pour
de
toi,
naturel.
C'est pas contraignant.
Oh non, mais c'est vrai, les gens se parlent beaucoup plus. Avec tout ce qui se passe, on fait plus ça par des choses dans la vie de tous les jours.
Pour Marie-Christine, oui, c'est un peu plus contraignant.
Non.
D'après ta question. Hein.
Non, je dis qu'en ville, c'est pas un problème. Je dis que s'il y a plein de villes où c'est pas possible de pas prendre la voiture pour aller d'un endroit à un autre.
Et puis c'est vrai que pour les personnes âgées et les handicapés, c'est quand même beaucoup plus difficile des fois de prendre des transports en commun qui ne sont pas adaptés.
Et où bondés. Il est là le problème. Et je déplore qu'à Paris, ils aient refait toutes les stations de métro sans mettre des escalators.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Alors avec des valises, bonjour.
Et Kevin ?
Alors moi, je vais bientôt commencer la conduite, en tout cas. Et en tout cas, moi, quand j'aurai la voiture, je vais plus privilégier les déplacements en banlieue pour aller faire des achats, pour aller à la salle de sport. Mais utiliser la voiture dans Paris, ça non. Je préfère le métro.
Trop compliqué. Et Ponari, toi, je suppose que tu privilégies le fait de ne pas prendre la voiture.
Bah oui, mais moi j'ai pas de permis, donc.
Bon, voilà, comme ça c'est clair.
J'ai toujours été parisienne, donc le métro c'est très utile et puis c'est pas polluant, donc.
Alors c'est vrai, des fois que de banlieue à banlieue ou de banlieue à Paris, c'est vraiment pas simple. Les transports sont toujours pas adaptés, ils sont vétustes, ils sont toujours en retard. Il y a toujours un truc qui va pas.
On peut pas aller partout.
Et puis surtout, le plus important, quand on prend la voiture, c'est pas facile pour se garer dans Paris ou c'est pas évident. Ouais. Hein. Faut garder la patience. Et puis des fois, si on trouve où on veut se garer, ça coûte cher des fois. D'ailleurs, les amendes.
D'ailleurs, tu l'as un peu dit, Didier, c'est pas toujours accessible aux personnes à mobilité réduite. D'ailleurs, il y avait une loi à ce sujet.
De quoi l'accessibilité ?
C'est ça, oui.
Oui, ben, ça devrait être accessible, mais pour les transports en commun, c'est pas obligatoire.
Comme
tu l'as dit, Marie-Christine, il y a plein de transports en commun qui ont été refaits et qui n'ont pas d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Et que se passerait-il si les voitures disparaissaient ? Imaginez une ville sans moteur, sans klaxon, une ville où les parkings et les rues deviennent un terrain de jeu, un jardin. Le cinéma et les séries nous offrent déjà des images de ce futur. Dans Her de Spike Jonze, Los Angeles se transforme en métropole douce où les voitures semblent avoir disparu, remplacées par des espaces piétons. Et dans The Last of Us ou The Walking Dead, les rues sont pleines de carcasses rouillées, recouvertes de plantes. Utopie ? Bah pas tout à fait, hein, car on a déjà connu des villes sans voitures et même sans presque personne pendant les confinements. Retour sur une période où les animaux reprennent le pouvoir. Alors on estime qu'entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021, près de 15 millions de morts excédentaires sont liées directement ou indirectement à la pandémie de Covid-19. Ça fait beaucoup, mais c'est une estimation de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, comme elle le précise, c'est des morts indirectes ou directes. Pour tenter de freiner sa propagation, en 2020 comme en 2021, le monde entier s'est mis en pause. Mars et avril 2020 marquent un moment inédit de l'histoire moderne, des milliards de personnes confinées simultanément, des entreprises fermées, des écoles désertes, des frontières fermées, des rues vidées, des voitures disparues. Et c'est dans ce silence presque post-apocalyptique qu'un phénomène inattendu a surgi, la nature a réinvesti les villes. Au Royaume-Uni, dans la petite ville galloise de, je vais écorcher son nom, Llandudno, je ne le ferai pas prononcer par petit Manu.
Ah non, je préfère pas.
Quoique, tu vas peut-être mieux le dire que moi.
Llandudno.
Non.
Bon, voilà, je préfère rien dire. Ouais, bon, je crois que t'as mieux dit que moi, effectivement.
Eh bien, il y a des chèvres de montagne qui ont dévalé le Great Orme pour envahir les rues désertes. Elles broutaient air et fleurs, escaladaient les murs, se promenaient librement là où les touristes et habitants auraient normalement circulé. À Tel Aviv.
Tel Aviv, c'est pas en Italie.
Israël.
En Israël.
Oh, tu étais presque.
J'allais me tromper. Voilà. En Israël, je t'ai renversé, Kevin. C'est vrai.
Eh ben, ce sont les chacals dorés qui se sont aventurés dans les parcs urbains. Ces animaux habituellement discrets profitaient de l'absence humaine pour explorer des zones qu'ils évitaient jusque-là. À Nara, bon, ça c'est plus difficile. Quel pays, petit Manu? Tu lirais où? Quel pays?
Nara. Ah ben, ça se trouve... Ah non, je connais pas ça.
Dis un pays.
Ah non, je voudrais pas me tromper, ça se trouve où, en Nara? C'est la première fois que j'entends. Bah là, j'ai appris quelque chose.
Eric va peut-être.
Intuition, je dirais Japon.
Eh mais... oui.
Ah, au Japon. Ah bah alors là, j'ai appris quelque chose. La ville d'Ara. Tu savais?
Ah, Nara.
Nara.
Et Paris, c'est où?
C'est la France. Non, mais là, j'en reviens pas. Nara.
La géographie avec Manu.
Non, là, excusez-moi. Merci.
Nouvelle chronique.
Nara, il y a un sacré tremblement de terre. Hein.
Voilà.
À Nara, au Japon.
Eh ben, au Japon. Voilà,
les daims sacrés, d'ordinaire nourris par les visiteurs, se sont enfoncés dans les quartiers résidentiels à la recherche de nourriture. Et ce ne sont pas seulement les mammifères qui ont profité du vide, les oiseaux aussi ont colonisé les espaces urbains. À Tel Aviv encore, on a observé une hausse des espèces nicheuses dans des zones habituellement saturées de voitures, de bruit et de passages humains. Moins dérangés, ils ont pu chanter plus fort, se reproduire davantage et investir de nouveaux territoires. Une vaste étude internationale mobilisant plus de 200 chercheurs et des milliers de pièges photographiques a confirmé ce phénomène. L'analyse de 163 espèces de mammifères a révélé un comportement transformé par l'absence humaine. Les herbivores, comme les cerfs ou les élans, se sont montrés beaucoup plus actifs. Les animaux urbains familiers comme les ratons laveurs ont élargi leur territoire. Mais en revanche, certains carnivores comme les loups sont restés prudents. Moi, j'aurais dit bizarrement l'inverse.
Ils sont créatifs, les loups, habituellement.
Ils limitaient leur incursion dans les zones urbaines. Le confinement a ainsi offert une expérience grandeur nature. Que se passe-t-il quand l'humain se retire du décor? Les voitures disparaissent, le vacarme se tait et la vie sauvage s'invite. Alors nos villes, est-ce qu'elles sont faites uniquement pour nous ou pourraient-elles être partagées, réinventées, ouvertes à d'autres formes de vie? C'est la question que je pose à petit Manu, tu as une heure.
Non, parce que non, c'est tout simplement ce que je pensais dire, mais c'est vrai que comme a très bien dit Ponari, bah, la nature reprend, et je comprends pourquoi des fois il y a des mouettes qui arrivent dans des pays, bah, parce que ça les mouettes ou les animaux revivent, bah, parce qu'il n'y a pas l'être humain, et ben bah, ils ont besoin d'espace, ils prennent leur espace, c'est
quoique dans certains cas ça cohabite dans ta chambre, il y a punaise.
Ah, Non,
scarabée, il y a cafard.
Ah, là, c'est ton
imagination. Habites, toi?
Ah non, j'ai ton imagination. Mais c'est vrai que la nature reprend, les animaux n'ont pas peur. Eh ben, regardez.
C'est l'être humain qui fait peur.
Et je crois, oh là, une sacrée vérité. Oh là 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 là. Non, mais très fin, Ponari. Hein. Non, mais il faut reconnaître que c'est une très bonne question qu'on peut poser. Qu'est-ce que tu en penses, Kevin?
Moi, je suis d'accord avec toi.
Eric?
D'accord avec toi également.
Bon, je crois qu'on est tous d'accord. Un très bon sujet de philosophie que tu as dit. C'est très fin.
Et nous ouvrons notre page culture pop, musicale et télé. Depuis longtemps, la chanson s'empare de nos habitudes de vie pour les questionner ou les tourner en dérision. Objet de désir ou symbole de pollution, la voiture n'y échappe pas. De Renault qui fustigeait les rallyes dans 500 connards sur la ligne de départ à la chanteuse Joni Mitchell qui dénonçait déjà les parkings dans Big Yellow Taxi, les artistes n'ont pas hésité à prendre la route pour mieux en montrer les excès. Alors, quelles sont les chansons qui luttent contre la voiture? Nous les découvrons dans le quiz de Kevin.
Kevin.
Et c'est parti pour le quiz.
Non, quiz. quiz, comme le cheese.
On cherche à comprendre encore la règle du jeu, je vais me planter sur un truc.
Mais saute-toi.
Ça vous dit un petit tour en chanson sans voiture?
Une très bonne idée, ça me paraît assez bien rare de nos jours.
Eh bien, c'est parti pour un quiz musical avec 4 titres et à vous de reconnaître de quel artiste il s'agit. On commence avec un célèbre chanteur français. L'avez-vous reconnu?
Moi, je voudrais m'offrir une grosse voiture.
Henri Salvador.
Tout voilà. À fait. Oui. Hein. Ah, Henri Salvador, avec ce titre, à votre avis, comment il s'intitule? Il n'y a pas voiture dans le titre. Hein. Moi, je préfère... La...
La marche, peut-être.
Oui, ensuite.
Ah, je sais pas, je l'ai au plus, je découvre à l'instant. Donc
La... Moi, je préfère la marche à pied.
Ah, la marche à pied. Ah. Ça alors, seconde découverte, Lyon.
Et oui, bien évidemment, Henri Salvador, qui, dans cette chanson, critique avec humour la modernité et la société de consommation, c'est-à-dire la fascination pour les voitures, les moyens de transport rapides et le progrès technique. Chanson des années 60, hein, je précise. Et dans ce titre, il met en avant une philosophie de vie simple. Plutôt que de courir après la vitesse et la performance, il vaut mieux prendre son temps, profiter de la vie et, à votre avis...
Et de la marche, peut-être.
Tout à fait, marcher à pied.
Voilà.
Et cette chanson d'Henri Salvador se veut une ode à la liberté, une manière de dire que marcher, c'est être indépendant, ne dépendre d'aucune machine ni de contraintes sociales. C'est un peu une chanson qui reste dans l'actualité, hein. Elle est actuelle cette chanson.
Une chanson écolo.
Exactement, oui. Et il n'est pas le seul à avoir fait des chansons écolo.
Il faut la connaître parce que là, je pense que c'est une chanson pas tellement connue. Hein.
En effet, je suis d'accord. Henri Salvador qui nous a quittés en quelle année, à votre avis? Il y a plus de 15 ans.
Oui, oui. En revanche, il avait des très beaux costumes blancs. Puis
il nous a quittés en 2008. Ah, ouais. On passe à un autre chanteur français, toujours aussi célèbre.
Comme un bateau des rires. Ah, Jean-Jacques Goldman.
Tout à fait, Jean-Jacques Goldman avec
Je marche seul.
Exactement. Chanson de 1985, extraite de son 4e album studio intitulé Non homologué. Et dans cette chanson, Jean-Jacques Goldman, il explique qu'il marche seul à travers la ville, perdu dans ses pensées, détaché de tous les soucis du quotidien et savoure le plaisir d'observer le monde de façon anonyme. Alors Marie-Christine, tu vas peut-être me détester, mais est-ce que tu as connu cette chanson quand elle est sortie?
Oh bah oui.
Bon, sans commentaire, je pense.
C'est Claude Nougaro. Kevin, il est punchy.
Claude Nougaro.
Je te demande si c'est pas Claude Nougaro avec Marie-Christine.
Bah si c'est pas Claude Nougaro, Marie-Christine, je connais pas.
Non, c'est bien Jean-Jacques Goldman.
Ah oui.
Alors, cette chanson, elle porte bien son nom parce qu'il a évoqué dans une interview Jean-Jacques Goldman ses propos suivants. Il y a des jours où beaucoup d'ennuis vous tombent dessus, des factures, je ne sais pas moi, plein de trucs, et tout d'un coup vous claquez la porte de chez vous, et vous sortez, vous marchez, vous vous dites, mes ennuis, c'est rien, j'ai 2 bras, 2 jambes, je peux marcher dans la ville, faire le vide dans ma tête. Est-ce que vous, quand vous marchez, ça vous permet de faire le vide, de penser à rien?
Ah oui.
Sauf Manu.
Oui, oui.
Bah, lui fait le plein quand tu
non,
marches.
Pas non, pas du tout. C'est un peu difficile parce qu'on regarde autour de soi, les gens qui passent, où on est. Donc, on peut le faire, mais on est vite après, on est déconcentré. Ça demande de la concentration, effectivement.
Moi, je suis portée par ma musique dans les oreilles.
Ah.
Je suis ailleurs.
Tu marches en musique, toi?
En musique. Ouais, en musique.
Et Eric?
Pareil, plus qu'Openery, ouais, j'ai souvent la musique quand je marche et en effet je suis transporté dans un monde.
D'accord.
Un autre monde.
Vous marchez en musique.
Ouais. Ah, ouais. Et toi Didier, comment ça se passe pour te concernant?
Je marche sans musique. Moi j'aime bien quand il n'y a pas de son. Il n'y a rien. Ça permet de faire le vide en fait.
Ah
c'est
bah
vrai.
Oui, oui.
Parce que je fais toujours quelque chose et je rêve d'avoir un moment de la journée où je ne fais rien.
Rien du tout.
Ah, je fais toujours 4 choses à la fois.
Ah ouais, bah alors,
quand j'en fais que 2, ça va, mais des fois je me dis je voudrais rien faire. Mais
ce qui m'arrive, c'est que même quand on veut rien faire, on n'aime pas rien faire.
Bah ouais. Non mais c'est pour ça que moi je prends le temps de marcher ou tout oublier et après à revenir, et ben on prend du recul, on se sent beaucoup mieux vis-à-vis de soi-même et des autres. Hein. Croyez-moi, suivez mes bons conseils.
En tout cas, l'été c'était une belle période pour marcher seul.
Ah bah.
Notamment dans Paris.
Ah, oui. Oui. Ouais.
Et Jean-Jacques Goldman, c'est quelqu'un aussi qui aime se retrouver seul, marcher sans but, sans être entouré en permanence d'une bande d'amis. C'est un peu ce qui explique sa discrétion, j'imagine.
Non, puis, en plus, c'est quelqu'un de très courageux. Vous savez pourquoi ? Parce qu'avant, il habitait à Marseille, il a voulu habiter à Londres, et puis après, je crois qu'il est revenu à Marseille, et vous savez, sa seconde femme a dit, « Eh ben maintenant, tu vas arrêter de venir au chanteur. » Et ben, du jour au lendemain, Jean-Jacques Goldman a tout arrêté. Il est devenu comme monsieur tout le monde. Ah bon, il paraît que, non, oui, à Londres, il paraît qu'il sort.
À Londres, hein, pas à Londres.
À London, et ben maintenant il sort.
Il marche à Londres, peut-être.
Ah non, il marche à Londres. Il
à
marche
Londres, comme, à Londres.
À Londres, en Angleterre, et ben comme monsieur tout le monde, comme ça. Et il paraît que quand, par exemple, il va au restaurant, faut pas le déranger. Et comme tu as dit très bien, il aime la discrétion, faut pas le déranger. Hein. Mais c'est fou. Toute la carrière, quand même, du jour au lendemain, d'arrêter comme ça. Ah ben, c'est
tu l'as déjà vu? Parce que t'as vu beaucoup de stars, toi.
Non, mais...
Dont Thierry Lhermitte qui t'a dit « Arrête de me parler » ou je sais pas quoi.
Non, non, ce que je vais vous dire, effectivement...
C'est vrai.
Non,
c'est
non,
vrai.
Non, ce que j'ai fait, une fois j'étais à Marseille, et vous savez ce que j'ai demandé ? J'étais à la mairie, j'ai dit « Oh, j'aimerais bien rencontrer Jean-Jacques Goldman !» Ils ont rigolé, et où il habitait, j'ai mis un peu la zizanie, ils savaient même pas où ils habitaient là.
Oui, mais t'as rencontré aussi Thierry Lhermitte une fois.
Oh, ah oui, voilà, ça c'était
pas... Et qu'est-ce qu'il t'a dit ?
Ah non, il était
pas content.
Il était pas content. Mais ceci dit, où il habitait à Marseille, après, bon, quand je suis rentré à
Allez,
Paris,
j'ai appris. Dire. J'ai appris. Qu'est-ce qu'il a dit, Thierry Lhermitte?
Non, mais après, on voyait le problème, mais on peut pas le déranger son écoute. Ceci dit, Jean-Jacques Goldman, où il habitait à Marseille, eh ben, il savait même pas où il habitait.
Manu,
et
quand c'est pour la bonne cause. Il t'a envoyé promener, il t'a envoyé marcher.
Ah oui,
ah bah voilà.
Il t'a fait l'utopie.
La boucle est bouclée.
Ah, voilà ça. Mais ceci dit, quand je suis rentré à Paris, Jean-Jacques Goldman, j'avais appris qu'il habitait en Angleterre. Mais c'est vrai, faut pas le déranger, il fait très bien, il aime la discrétion. Voilà.
Bon, Jean-Jacques Goldman, qui reste toutefois la personnalité préférée des...
Non, bah,
des Français.
Français, bah, oui, français. Voilà. Mais c'est vrai, c'est un peu fait. Dommage qu'il ait arrêté la
ah
musique.
Oui, mais du jour au lendemain.
Mais bon, son œuvre perdure, cela
ah,
dit.
Ouais, ouais. Mais il y a son fils qui a la Starac.
Exactement.
On lui souhaite bonne chance.
Michael Goldman.
Exactement.
On passe maintenant à un autre artiste qui a fait une chanson écologique. De qui il s'agit ?
500 connards sur la ligne de
l'époque.
Tout à fait. Renaud avec, c'est lui qui dit, hein, 500 connards sur la ligne de départ. Chanson de 1991, extraite de son 9e album intitulé Marchand de cailloux. Alors en fait, c'est une chanson dans laquelle il fait allusion à un événement où on utilise la voiture, enfin un événement sportif où on utilise la voiture. Ça, c'est un rapport avec Paris.
Paris-Dakar.
Voilà, Paris-Dakar. Un événement qu'il ne porte absolument pas dans son cœur, car dans cette chanson, il dit que les personnes qui participent au Paris-Dakar, ils vont traverser l'Afrique avec le pied dans le phare, dégueulasser les pistes et revenir bronzés. Dans cette chanson, en fait, il témoigne de sa volonté d'abolir le Paris-Dakar, qui selon lui accumule des catastrophes humanitaires et un désastre environnemental. Je vous propose qu'on écoute un extrait.
Crachant vos décibels aux enfants décimés, 500 connards sur la ligne de départ, 500 guignols dans leur bagnole. Ça fait un max de blaire aux portes du désert, un paquet d'enfoirés au vent du Ténéré.
Est-ce que vous pensez qu'une chanson comme ça en 2025, ça ferait polémique ou pas du tout, bah, avec les mêmes paroles?
Bah, on a l'impression qu'il est très ironique, hein, il se moque
oui,
beaucoup.
Parce
hein,
que, oui, parce que maintenant tout fait polémique.
Oui, mais je dirais tout dépend qui peut se permettre. Parce que Renaud...
Parce que Renaud en 91, bon, c'était déjà un artiste confirmé.
Voilà, voilà. Puis en plus, on l'a côté écrivain.
On connaissait déjà son franc-parler, même si j'étais pas né.
C'est vrai, mais tout dépend qui. Après, et dans quel propos, parce que... Après, les conséquences, dur. Hein,
aujourd'hui, il faut faire attention à ces mots.
Faut être prudent, parce que... vaut mieux. Hein.
Pour la petite histoire, c'est une chanson qu'il a écrite avec un autre Renaud, qui est Renaud Détressant, qui est le membre fondateur du groupe Soldat Louis. On passe maintenant à un autre chanteur.
Faut que j'envoie ces lettres, faut que je rappelle mon père d'abord, faut que je prévoie cette fête, j'ai promis de faire pour le disque.
Alors, il a été médecin avant, son prénom c'est Benjamin.
Papa.
Mais c'est, il est plus connu, sous le nom de Ben.
C'est pas l'oncle, non, pas l'oncle.
Alors, pas Ben l'oncle Sou, mais Ben bien tenté.
Ouais, ça, je me suis trompé, évidemment. Oh là
non,
là.
Il s'appelle Ben Mazué.
Ah, Ah oui, et je crois qu'il fait du slam avec Grand Corps Malade.
Exactement, oui, ils ont fait une collaboration.
Ah oui, tout à fait, Grand Corps Malade, je vois qui c'est, oui. Il est fort sympathique, hein. Oui.
Et oui, Ben Mazoué avec cette chanson intitulée « Quand je marche », une chanson extraite de son album « Paradis » sorti le 6 novembre 2020, l'année où il y a eu l'arrivée du Covid, hein, qu'on a évoqué tout au long de l'émission. Et je pense qu'il s'est aussi inspiré du Covid dans cette chanson parce qu'il évoque l'idée que la marche, c'est bon pour la santé. C'est aussi une source d'inspiration, hein, la marche, le fait de ne pas rouler en voiture. Et dans cette chanson, il dit, bon, on l'entend, hein, les propos suivants. Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire. Ça fait presque écho aussi à la chanson de Jean-Jacques Goldman, hein, qu'on a entendu tout à l'heure. Un peu dans la même veine.
Un peu plus calme, plus serein.
Ouais, il a bien résumé en tout cas.
Ouais.
En tout cas, beaucoup plus calme que Renaud,
ah oui, c'est
évidemment.
Incomparable.
Et celui qui avait écrit Marche à l'ombre, c'était quoi?
Marche à l'ombre. C'est Didier qui l'a dit, non? Alors c'est pas Renaud qui chante ça.
Oui, tout à fait, c'est voilà. Renaud. Exactement. Alors, oh là là.
C'est pas dans le film les spécialistes peut-être, non?
Gérard Lanvin. Bernard Giraudot et Michel Blanc, voilà, c'est ça.
D'accord, très bien. Voilà, merci pour l'info.
Non, on sait jamais. Très bonne question, Marie-Christine.
On termine cette émission par de la culture pop.
Ah ouais, on va retrouver notre cher ami Eric, je m'excuse parce que...
Et l'air, c'est qui?
Bah, c'est notre cher ami Eric qu'on va en trouver. On te retrouve avec grand plaisir.
Alors, dans la chanson, il chante de la musique pop.
Ah, c'est tiré à ça, oui. Oh là 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 là. Alors, ça, c'est un succès, hein.
Quitte à faire de la peine à Kit.
Oh,
ah, il a bugué. Mince.
Oh non, pas du tout. Ah non, mais...
Il y a eu trop de Kit dans la phrase.
Ah, je t'écoutais.
Le deuxième Kit, c'est K-I-T-T.
Oui, oui, oui. Je t'écoutais. Alors, je me tais de temps en temps.
Je te dis qu'à 2000.
Oui, justement, avec un certain Michael Knight. Ah. On pense à la même chose.
Eh bien, quitte à faire de la peine à Kit, la célèbre voiture intelligente de la série K2000, cette chronique nous invite à imaginer une ville sans voiture grâce aux nouvelles technologies. En effet, les jeux de construction permettent de concevoir des villes idéales où les habitants se déplacent à pied, à vélo ou en transport en commun, sans dépendre des voitures. Ces jeux vidéo, essentiellement sur PC, ont vu le jour en 1968. Ah, c'est dingue, hein, 68.
Ouais. Les premiers avec... En fait, c'était des lignes de code. Mmh. Et ça faisait partie des jeux de simulation. Ouais.
D'accord.
Bon, Didier, tu n'étais pas né.
En 68, Paris était envahi.
Voilà. Ah, on n'était pas né. Voilà.
C'était aussi à pied.
Ah bah oui, tout à fait.
Et c'était mai 68.
Après,
et
c'est vrai que ça n'avait rien à voir avec les graphismes d'aujourd'hui.
Ah oui, aujourd'hui, vraiment, c'est pas le même monde.
Mais j'étais étonné par la date. Hein. Mmh. Et bah, ces jeux-là, on les classe donc dans le genre City Builder. Ces jeux se focalisent sur la construction et la gestion d'une ville. Les plus connus d'entre eux, c'est bien sûr SimCity 2000. Et bah, ces jeux ne cessent d'évoluer et permettent entre autres une expérience sans voiture. Eric a choisi de nous parler de Cities Skylines, où de plus en plus de joueurs se passent de voiture dans leur ville virtuelle. Retrouvez la nouvelle chronique d'Eric.
Ah, quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle chronique autour de la culture pop.
Une culture pop, jazz, pop, boum, 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 boum.
L'arrivée de nouvelles figurines pop, plus connues sous le nom de Funko Pop. Vous savez ces figurines en vinyle avec une grosse tête et un petit corps?
Il va nous aider, Eric. Oh là 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 là.
Qui n'a jamais rêvé de construire sa propre ville en y ajoutant ce qu'on apprécie, en retirant tout ce que peut y avoir de contraignant?
J'aimerais bien. Qu'est-ce qui est contraignant pour toi, petit Manu, dans les villes?
Oh bah des fois c'est la pollution, des fois les vélos, les cyclistes, pas les cyclistes mais les trottinettes passent à toute vitesse. Faut être très prudent.
Moi c'est les gens.
Ah, c'est
non,
vrai.
Moi aussi. J'enlèverais les gens.
Non, mais les trottinettes, oh non.
Ceci dit, il n'y aurait pas de gens, il n'y aurait pas de voitures. Ah, oui. Comme par exemple une ville sans voiture. Alors, un jeu de vidéo permet de le faire et c'est effectivement ce dont je vais vous parler. Alors, datant de mars 2015 et connaissant une suite sortie en mars 2024, Cities Skyline, donc entendez-la par Cities 2. Skyline, donc 1 et 2. Hein,
j'entends. Ok.
Dépoussière tous les jeux classiques de simulation de ville. Une version moderne où vous construisez en temps réel votre ville avec les vraies difficultés et problèmes que l'on peut rencontrer lorsqu'on décide de bâtir une cité. On y gère des routes, les services publics, l'alimentation, de l'eau, l'électricité et différentes infrastructures urbaines. Le joueur représente un maire et doit gérer le budget, les investissements, les travaux mais aussi la politique. En effet, l'objectif étant de répondre à la demande de ses collaborateurs, composer avec eux et faire marcher l'économie en pensant attirer les touristes par exemple. Alors, moi, pour cette chronique, j'ai enquêté un petit peu et j'ai vu que bon nombre de joueurs souhaitent, comme dans la vie réelle, créer une ville sans voiture. Et c'était le cas de City Skylines, en fait. Pour les intéressés, hein, si ça vous intéresse, sur le web, il y a pas mal de tutos pour le faire. Et ce n'est pas chose aisée, comme dans la réalité, vous allez voir. Qui dit ville sans voiture dit contrainte à gérer. Je vous explique. Une fois que vous avez construit votre ville, vous vous rendez compte tout de suite qu'il faut la peupler. La plupart de la population arrive en voiture. Vous êtes d'accord? Donc il faut faire preuve de stratégie. Alors pour faire preuve de stratégie, il faut préviser les zones de parking en dehors de la ville et obliger la population à se rendre à pied en ville. Alors pour cela, il faut penser à créer des zones piétonnes, mais surtout imaginer des axes de transport en commun comme le tramway et métro, hein, comme on l'avait dit.
En crayon.
Et bon, voilà. Donc il y a un facteur important à ne pas négliger, c'est la croissance et l'économie. Oui. Parce que si on retire des voitures, on retire tout ce qui est l'économie, le trafic urbain et l'acheminement des produits. Donc en effet, il faut rendre aisé l'accès au commerce, écoles et bureaux. Donc tout ce qui fait l'essence même d'une économie d'une ville. Il faut donner aussi aux habitants de votre cité l'envie d'y vivre. En effet, si voilà, c'est compliqué, on ne peut pas faire des kilomètres à pied. Donc,
si on n'a que des cafés ou petits manuchantes.
Ah oui, ça va être compliqué, ouais, en effet, surtout pour les oreilles.
Bon, ça va, j'apporte du bonheur aux gens, mais du coup, ce que tu dis, c'est très intéressant. Vous aussi, les collègues, les amis, hein, j'imagine, on est tout oui.
Alors, si par exemple, vous généralisez l'utilisation du vélo dans votre jeu, il faudra penser au coût des transports en commun afin d'équilibrer le budget général de la ville. Et oui, si vous obligez les habitants à venir dans votre ville par une zone connectée à la cité type parking, la rendre payante serait un excellent moyen. Donc, plus facturer, taxer les voitures. Et question économie, il y a des zones industrielles à faire marcher sans qu'il y ait une connexion directe à la ville pour éviter les transits de véhicules à l'intérieur même de la cité. Une autre chose, c'est l'emplacement des réseaux de transport et les pistes cyclables. Hein. Le but d'une ville sans voiture, c'est aussi laisser la place aux piétons qui puissent circuler librement, donc réfléchir à un aménagement adéquat entre tout cela. C'est comme dans la réalité, hein, les contraintes arrivent très vite. Parking saturé, zéro voiture, c'est pratiquement impossible car il faut penser aux ambulances, aux pompiers, autres véhicules de service d'urgence. A besoin de... Comme tu disais, Marc-Christine, au début, l'accès, par exemple, aux femmes qui accouchent, aux urgences médicales. Et c'est pour cela qu'imaginer une ville sans voiture dans le Sea Builder City Skylines est vraiment un challenge et il faut admettre que même dans la vraie vie, ce n'est pas si simple. C'est donc un très bon jeu de simulation et on sait pourquoi. Il a été conçu par Colossal Order, qui est un studio de développement de jeux indépendants finlandais, profondément passionné par les jeux de simulation et avec plus de 10 ans d'expérience dans le domaine. City Skylines est édité par Paradox Interactive, inconnu pour l'édition de jeux de stratégie de qualité pour ordinateur, et Tantalus Media, développeur de jeux sur console qui a remporté plusieurs prix de jeux et franchises. Si vous aussi vous souhaitez vous y mettre, hein, sachez que le jeu est disponible donc sur l'ordinateur, les plateformes de jeux Steam, GeForce Now, ainsi que les consoles PlayStation 5 et Xbox. Sur ce, amis de la pop culture, je vous souhaite une bonne balade sans voiture en attendant votre prochaine pop chronique.
Eric, je peux dire quelque chose? Quand tout à l'heure, Lydie a très bien annoncé ta chronique, vous savez quand ça m'a fait penser? Et un feuilleton, je sais pas, t'as connu le prisonnier? C'était oui. Patrick Balgoin. Oui. Et figurez-vous, c'était un homme qui était prisonnier. Et il était prisonnier et il y avait des grosses boules comme ça. Et quand t'as annoncé, je sais pas pourquoi ça m'a fait penser.
Il y a même eu un remake.
Ah, cette série. Ah bon, ouais. Ça m'a fait penser aux prisonniers. Et en fait, il ne veut pas sortir. Et à chaque fois, il veut partir. Il y a des grosses boules imaginaires. Oh là, j'étais petit quand j'ai vu.
Mais là, c'est un peu une vraie ville, non? Dans le prisonnier, voilà. Je crois me souvenir.
Et toi, Didier, c'est curieux parce que t'as très bien annoncé Eric. Et quand t'as ça, ça m'a fait penser à ce piéton-là. Tu vois, je voulais simplement le mettre en valeur.
Alors, moi, j'avais entendu, et je pense que c'est que lors de l'exposition universelle en 1900, les rues, de façon de dire, c'était c'était des tapis roulants. C'est-à-dire, il n'y avait pas de voiture, mais les gens se déplaçaient sur
pour l'expo universelle.
Pour l'expo universelle. Voilà. Donc, c'était.
Ils avaient installé des tapis roulants.
Ah, voilà. Toutes les rues étaient des tapis roulants, et ça se. Voilà, les gens se déplaçaient comme ça, avec peut-être des dérives.
D'accord.
Donc effectivement, on aurait pu envisager ça plutôt que ce soit des voitures sur des routes fixes.
Merci Eric.
Et cette émission sur la journée sans voiture s'est déjà finie. Si vous avez loupé le début de l'émission ou si vous voulez la réécouter, l'émission est rediffusée sur de nombreuses radios dont vous retrouverez la liste sur Big Bang
Station.fr.
On se quitte avec un proverbe, Kevin.
Et je vous cite un proverbe de Jan Goodall. La journée mondiale sans voiture nous rappelle que nos rues sont trop précieuses pour être dominées par des voitures. Elles sont le lien qui unit nos quartiers, nos communautés et notre planète.
Salut à toutes et à tous. La semaine prochaine, on se retrouve pour un nouveau thème.
Eh ben, ce sont les rêves.
Les rêves.
Donc la nuit va nous porter conseil. Les rêves, on va vous en parler.
Salut à toutes et à tous.
Salut.
Salut. Et bonne rentrée à tous.
Au revoir.
Au revoir.
Okay, let's stop.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
IDFM Radio 98 FM.
Bonjour, c'est Christelle. Je vous donne rendez-vous tous les samedis dès 16h sur IDFM Radio avec Les Secrets de la Servante, votre nouvelle émission culture pour parler des artistes et des spectacles à l'affiche.